Lux Radio, c'est le moment de retrouver votre rubrique Mon corps, ma vie. Alors, on continue aujourd'hui de parler, de s'intéresser à un sujet pour le moins délicat, hein, pour les parents qui sont confrontés à la situation, la malformation fœtale. Alors, après avoir déjà... Après cette penchée sur le dépistage et la prévention, on parle aujourd'hui plus précisément du diagnostic et de la prise en charge. Et on en parle avec le docteur Hicham Benabastargi, un gynécologue obstétricien à Casablanca. Il nous a rejoint. Bonjour et bienvenue.
Merci, toujours un plaisir de venir.
Bonjour, les malformations fœtales donc, on a fait le tour de la question de manière assez globale. Daniel disait il y a de cela 2 semaines. Aujourd'hui, focus sur le diagnostic et la prise en charge. Alors, rappel rapide, les malformations fœtales, on le disait, malgré les avancées scientifiques en la matière, leur cause exacte reste inconnue dans près de la moitié des cas. Et il y en a quand même toute une liste, cela dit, dont on connaît la cause. Et les causes sont soit intrinsèques, donc génétiques, soit extrinsèques, et donc environnementales, soit on a affaire à des causes multifactorielles. Le diagnostic, d'ailleurs, les auditeurs et auditrices peuvent réécouter l'interview, notre interview avec vous là-dessus sur l'application Lux Radio. Donc le diagnostic aujourd'hui, avant la naissance.
Le diagnostic, il est grâce à l'échographie, qui est un apport majeur pour justement déceler. On a la possibilité de voir grâce aux ultrasons et sans aucun danger. Il faut le répéter pour les gens qui ont peur de l'échographie. On peut faire 3 échographies par jour. Donc l'échographie, c'est des ultrasons que le bébé n'entend pas, que nous aussi on n'entend pas, et qui permettent, grâce à, comme un radar, de déceler des malformations, voire, et éventuellement de permettre donc une prise en charge à la naissance de cela.
Oui. Donc c'est essentiellement l'échographie, pas d'IRM, pas d'analyse de sang.
Si, alors également aussi, alors il faut le dire, la TDM qui utilise des rayons X et est interdite en début de grossesse. Mm-hmm. On peut la faire vers la fin de grossesse, notamment pour mesurer le bassin, mais l'examen de référence justement, c'est l'IRM, qui est juste une utilisation de la mesure d'ondes électromagnétiques, donc sans problème, et donc pour bien voir ça nous donne des planches anatomiques fœtales. Il y a autre chose, il y a les bilans biologiques. Donc d'abord l'échographie qui est la routine et que tous gynécologues a dans son cabinet. Tous les gynécologues ne sont pas formés au dépistage et au diagnostic des malformations. Il faut pour cela une formation spéciale en échographie fœtale. Après, il y a des bilans biologiques. Donc, qui nous permettent aussi d'orienter vers des étiologies infectieuses ou donc malformatives. Et puis, encore une fois, pour le bilan malformatif, l'IRM, qui va montrer des coupes anatomiques et voir l'anomalie des organes.
D'où, je rebondis à vos propos, docteur, d'où la nécessité d'être suivi lors d'une grossesse par un gynécologue, puisque... Au Maroc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui s'orientent parfois vers un médecin, on va dire généraliste.
Non, je dirais pas ça. C'est que même les généralistes, du moment qu'ils sont formés à dépister le normal, les sages-femmes aussi. Bon, en France, les sages-femmes font des échographies, au Maroc, non. Mais un généraliste qui fait des échographies normales, non, pas forcément. L'essentiel, c'est de suivre sa grossesse et de ne pas le laisser...
Donc ça sous-entend qu'une simple échographie est suffisante. On doit pas ou on peut pas aller plus loin. Comment ça se passe concrètement?
On peut y aller.
Si dans l'échographie, on décèle absolument aucune anomalie. C'est justement ça. Dans la pratique, comment ça se passe? C'est ça qui nous intéressera et qui intéressera probablement aux auditeurs et auditrices.
Pratique.
Si dans l'échographie, on trouve absolument aucune malformation, on ne suspecte rien, on s'arrête là?
Alors, il y a au moins 3 échographies qui sont obligatoires. Il y a l'échographie du premier trimestre qui va dépister des malformations majeures. Il n'a pas de tête, il s'est arrêté, il n'a pas de bras, c'est il a le ventre qui est mal formé, ce qu'on appelle une solosomie, le thorax qui est mal formé. C'est des malformations majeures qu'on va dépister au premier trimestre. Ça permet aussi de mesurer la clarté nucale, qui est l'épaisseur de la nuque, et qui est aussi en relation avec soit le syndrome un risque de trisomie 21, je dis bien un risque, soit l'expression donc de malformations du cou qui vont bloquer justement le retour lymphatique. Donc ça c'est au premier trimestre. Il y a l'échographie aussi du deuxième trimestre, vers 20-25 semaines, idéalement 22 semaines, qui va voir, une fois que tous les organes se sont constitués, le fait qu'ils sont normaux, que le cœur a été bien cloisonné, que le ventre a été bien formé, qu'il n'y a pas de spina bifida, que la tête, il n'y a pas de malformation majeure d'obstacle qui va donner ce qu'on appelle une hydrocéphalie, que les reins sont là, qu'il n'y a pas de problématique de l'arbre urinaire. de l'arbre digestif, on s'assure que le bébé, grosso modo, est bien formé. Mmh. Et une troisième échographie, bien sûr encore vers 32 semaines, 34 semaines, où on va s'assurer de la croissance. Bien sûr qu'il n'y a pas eu d'autres malformations intercurrentes, parce que, comme vous le disiez, il y a les causes intrinsèques génétiques ou chromosomiques, mais aussi les causes extrinsèques, c'est-à-dire les causes infectieuses, les causes de surtout les causes infectieuses ou de facteurs rhésus ou d'autres facteurs qui peuvent entraîner une malformation par la suite. Mmh. Et donc, et surtout aussi estimer la croissance fœtale avant d'accoucher. Voici, alors si ces trois échographies sont normales et même faites par un généraliste, il n'y a pas de raison, moi je ne dénigre pas du tout le suivi des grossesses par un généraliste.
Mais peut-être que dans le meilleur des mondes, en tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur des mondes, vous nous direz, mais ailleurs, il y a beaucoup, d'ailleurs c'était une question que je voulais vous poser aussi, oui. Quels sont les intervenants possibles? Parce qu'ailleurs, on nous dit obstétricien, échographiste, radiologue, pédiatre, généticien, cytogénéticien, etc., etc. Alors, tout ce beau monde doit intervenir lorsqu'on suspecte une malformation fœtale.
Comme vous dites, alors ailleurs, il y a de la surspécialisation. Mm. Vous devenez excellentissime, j'utilise le terme excellentissime, quand vous ne faites que ça. Il y a des gynécologues en France qui n'opèrent pas, qui ne font pas de sein, qui ne font pas de col, qui font que de l'échographie fœtale. C'est un choix, ils sont excellentissimes justement parce qu'ils ne font que ça. Maintenant, même les excellentissimes peuvent rater une malformation parce que des fois, elle ne vous dit pas, elle n'est pas visible. Il peut y avoir des malformations qui ne sont pas visibles, même pour le meilleur. Mmh. D'accord ? Donc c'est vrai que quand on fait beaucoup, généralement, on cherche des petits signes. Maintenant, pour le suivi d'une grossesse normale, je vous dis, il faudrait qu'un généraliste fasse une écho normal entre guillemets, et s'il a un doute, il fait ce qu'on appelle du dépistage. Mmh. Et s'il a un doute, il va l'envoyer chez un diagnostiqueur, c'est-à-dire chez un gynécologue formé ou chez quelqu'un qui fait beaucoup de, ou un radiologue aussi formé qui fait beaucoup d'éco-morphologique de telle manière à faire le diagnostic et proposer une prise en charge. Mmh. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est pas juste diagnostiquer pour diagnostiquer, c'est pour proposer une prise en charge à la naissance. Oui. C'est ça qui est important.
Monsieur Benabastar, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, on parle de malformation fœtale, diagnostic et prise en charge aujourd'hui. Ailleurs, avant d'en arriver à la prise en charge, vous en parliez à l'instant, ailleurs, lorsqu'on suspecte, quand je dis ailleurs, c'est essentiellement en Europe, hein. Ailleurs, lorsqu'on suspecte une malformation, on parle rapidement d'une prise en charge le plus rapidement possible, je le répète, dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic anténatal agréé. Comment est-ce que ça se passe au Maroc? Est-ce qu'on en a ce type de centre?
Non, on n'a pas de centre néonatal. Il y a une autre problématique, c'est que l'interruption médicale de grossesse n'est pas légale dans notre pays, on l'a déjà dit, même si on appelle de nos voeux à pouvoir légiférer et avoir un cadre légal où on peut proposer ça. Mmh. Parce que justement, je vous dis par exemple, quand on fait une échographie au premier trimestre, on voit que le bébé n'a pas de tête. C'est insensé de garder cette... Ça existe, c'est ce qu'on appelle des anencéphalies. C'est anormal que de garder ce bébé jusqu'à la naissance. C'est vraiment, pour moi, injuste et c'est vraiment une double peine pour la patiente.
Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas de prise en charge.
Il n'y a pas de prise en charge. Je vous dis, c'est assez difficile. Si, il y en a. C'est-à-dire qu'on doit l'adresser, on l'a déjà dit la dernière fois, on doit l'adresser à l'hôpital pour qu'elle va être vue par d'autres médecins qui vont confirmer cela et donc décider pour une interruption médicale de grossesse. Dans les faits, c'est très difficile parce que les gens ne veulent pas se mouiller. D'accord. Après, il y a ça dépend.
Les gens, c'est-à-dire
les médecins, les autorités sanitaires.
Mais techniquement, la procédure, c'est que un cas soit
discuté
par plusieurs médecins et qu'on prenne une décision de collégiale. Éventuellement pour une IMG.
Tout à fait. On voit que le bébé n'a pas de tête. Ça a été confirmé par 2, 3, 4 médecins, par 2, 3, 4 échographies. Et ben, ce bébé, il va naître à 9 mois et il va vivre quelques heures et puis il va mourir. Mm. Donc ça. On demande, tous les gynécologues du Maroc demandent cela, à ce qu'on puisse légiférer de telle manière à avoir une autorisation, légalement. Alors, dans les faits, ce n'est pas possible. Alors, après, il y a d'autres malformations qui ne sont pas létales, qu'on peut vivre avec.
En effet, il y a les malformations létales, oui. Graves et curables, on en a discuté il y a 2 semaines.
Et il y a surtout cela, oui. les malformations curables, c'est surtout sur ça qu'on peut agir. C'est-à-dire, par exemple, des fois, il y a des malformations cardiaques. D'accord, des transpositions des gros vaisseaux ou des communications interventriculaires ou interauriculaires, des malformations du cœur et qui nécessitent une prise en charge immédiate à la naissance. Parce que sinon, le bébé va vivre 24-48 heures, alors que le bébé peut nécessiter d'être opéré et il pourra vivre. Donc, s'il est opéré immédiatement, s'il est pris en charge par un néonatologiste et un spécialiste de cette pathologie, à ce moment-là.
Donc, c'est très important de se faire suivre par un médecin qui sache diagnostiquer les malformations fœtales.
Tout à fait. Par exemple, les atrésies de l'œsophage, c'est-à-dire c'est donc un œsophage qui est mal formé, eh ben, c'est important que dès qu'il naît, eh ben, qu'il ne faut pas alimenter le bébé parce que sinon ça va aller directement dans ses poumons. Mmh. Vous voyez, c'est ça qui va lui permettre le temps d'attendre d'être opéré. Donc c'est important, voilà ce qu'on peut proposer comme prise en charge. Maintenant, il y a d'autres prises en charge en Europe qui se font où on est capable de faire de la photoscopie. C'est-à-dire pour des malformations pulmonaires, par exemple, eh ben on peut mettre des plugs en intratrachéal. On opère par une cœlioscopie, on rentre dans l'utérus, et on rentre dans la poche amniotique et on peut opérer le bébé. Je vous dis, ça se fait, c'est génial. Dans les malformations, dans les grossesses gémellaires, avec ce qu'on appelle des shunts artério-veineux, où vous avez des communications entre les deux bébés, entre les placentas des deux bébés, et un bébé qui est très perfusé et un autre bébé qui est hypoperfusé. Eh ben, il y a moyen de faire, d'aller et de brûler au laser ces communications artérielles entre les deux placentas, de telle manière à chanter et à permettre de respecter, de rééquilibrer la circulation sanguine pour le premier bébé et le deuxième bébé. Il y a des choses à faire.
Oui, on parlait tout à l'heure de la multitude des intervenants possibles en Europe et d'ailleurs en Amérique aussi, aux États-Unis plus particulièrement. Oui. Une question peut-être un peu bisounours, une consultation chez un psychologue qui est systématiquement proposée, est-ce que les gynécologues le font ici?
Oui, mais pas systématiquement. Enfin, dans ces cas-là, bien sûr.
Il y a de l'espoir, alors.
Bien sûr, on va le proposer, mais je dirais en fonction du cas. Vous me donnez la perche pour parler justement du conseil génétique. Des fois, il y a des causes intrinsèques où c'est familial. Il y a des anomalies génétiques familiales, et donc on sait selon la malformation. Alors déjà, on le sait parce qu'on dit qu'il y avait un cousin, il y avait plusieurs cas similaires dans la famille. Donc c'est pour ça qu'on va aller rechercher le gène en cause et on va peut-être proposer un conseil génétique.
Et ce sont les consultations préconception qui sont extrêmement importantes aussi. C'est une forme de prévention en réalité, parce que quand on sait qu'il y a des antécédents ou des facteurs de risque, cette consultation-là, préconception, devient extrêmement importante.
Tout à fait, parce qu'on va dire à la dame...
Avant de finir avec cette forme de prévention qui est extrêmement importante, docteur, restons sur le psychologue, sur la phase psychologue lorsque le couple en réalité découvre qu'il y a une malformation fœtale ici au Maroc, est-ce qu'on dirige les gens vers un psychologue?
Ça arrive.
Ce
n'est pas systématique.
Alors que la femme, dans la pratique, comme vous le dites, ne peut pas procéder à une IMG, même si c'est une malformation très grave.
Si la femme,
doit vivre avec ça toute sa vie.
Première des choses, on n'est pas toujours sûr. On peut se tromper, même à l'échographie. On peut espérer se tromper, même si on le voit souvent et qu'on est sûr à 99%. Deuxièmement, le psychologue, qui sait qui va le payer? Il faut aussi que la patiente puisse le payer et puisse avoir les moyens de le payer. Il faut qu'elle le veuille. Et il y a quelque chose qui est caractéristique de notre pays aussi, alhamdoulilah, c'est que les gens sont croyants et les gens acceptent cela. Oui. Je dirais, c'est peut-être ce qui pardonne, qui fait passer la pilule un petit... C'est très dur. Je sais que c'est très dur, mais et donc on l'accepte un peu plus, je dirais, que dans d'autres pays où non, il faut un responsable, il faut quelque chose, et donc on ne l'accepte pas aussi facilement. D'accord, c'est le bon vouloir du bon Dieu, et c'est comme ça, et donc on accepte et on va finir par passer à autre chose, ce qui n'est pas toujours facile, je le sais, mais l'essentiel pour moi...
Est-ce qu'on passe vraiment à autre chose?
Oui, mais je veux dire, l'essentiel pour moi, c'est par exemple d'évaluer le conseil génétique. Est-ce que c'est une chose qui s'est passée comme ça, qui est épiphénomène, parce qu'il y a une ischémie, parce qu'il y a eu une mauvaise vascularisation, parce qu'il y a eu un truc particulier, et que donc c'est un phénomène isolé? Ou bien est-ce que c'est une cause chromosomique ou une cause génétique qui va dire que dans 50% des cas, ça risque de revenir. Ça, c'est plus problématique pour les prochaines grossesses. Mmh. À la rigueur, on peut éventuellement, j'espère, dans un avenir, proposer ce qu'on appelle un diagnostic anténatal, un dépistage prénatal, où on va peut-être faire une fécondation in vitro et vous mettre les bons bébés exemples d'anomalies génétiques. On peut espérer que ça arrive. Ça arrive déjà en Arabie Saoudite. Mmh. On peut espérer que ça arrive un jour au Maroc.
On finit, Jamila Bastaghi, avec l'importance des consultations préconception.
Mais justement, une forme de prévention, la prévention, elle est d'abord, je dirais, elle est d'abord sur la nutrition de la dame, prendre de l'acide folique dès le désir de grossesse et non pas juste au début. C'est équilibrer un diabète, prendre des médicaments, savoir si les médicaments qu'on prend de manière chronique sont compatibles avec la grossesse. C'est prendre l'acide folique, je l'ai dit, équilibrer un diabète, voilà, et avoir une bonne alimentation, arrêter le tabac, arrêter l'alcool. Oui. C'est et le suivi régulier, je dirais, chez un professionnel de santé, que ça soit gynécologue, généraliste ou même sage-femme.
C'est et lorsqu'on a des antécédents ou des facteurs de risque, au minimum en parler avec son médecin.
Alors, si on a des facteurs de risque particuliers, des antécédents, une maladie chronique, diabète, hypertension cardiaque ou quelque chose, anémie, alors là, il faut être suivi chez un gynécologue.
Merci beaucoup, Hicham Benabassagi.
Merci à vous.
Merci. Je rappelle